Le journal Frédéric Barrère, bonjour.
Bonjour à tous. Le commissariat de Champigny-sur-Marne, cible d'une attaque violente. Cette nuit, un groupe de 40 personnes s'en est pris à ce commissariat avec des mortiers d'artifice et des barres de fer. Nous serons sur place dans un instant et nous entendrons les réactions du syndicat de policiers Alliance. Une semaine après les inondations dans les Alpes-Maritimes, le traumatisme est toujours présent chez les sinistrés. Où en sont les opérations de nettoyage et la lente reconstruction? Nous ferons le point avec le maire de Roquebillière, Gérard Manfredi, invité de ce journal. La progression de l'épidémie de coronavirus, nouveau record de contamination hier en France avec près de 27 000 cas dépistés. Au Royaume-Uni, la colère gronde dans les villes du nord de l'Angleterre, sans doute soumise demain à de nouvelles restrictions. Dans ce journal également, le cessez-le-feu malmené dans le Haut-Karabakh, un jeu vidéo qui fait polémique à Toulouse et du tennis avec deux finales aujourd'hui à Roland-Garros. Le double dames ce matin et l'événement Nadal-Djokovic et un 13e sacre possible pour Raphaël Nadal, porte d'Auteuil. La météo, orage sur la Côte d'Azur, neige dans les Pyrénées et température en baisse. Jean-Michel Golinski à la fin de cette édition.
France Inter.
Une attaque violente et spectaculaire cette nuit contre le commissariat de Champigny-sur-Marne, dans le Val-de-Marne. Une quarantaine de personnes, avec des tirs de mortiers d'artifice et à coups de barres de fer, ont attaqué ce commissariat situé dans une cité sensible de la ville. Il n'y a aucun blessé, aucune interpellation. Le commissariat avait déjà, dans le passé, été la cible de plusieurs attaques de ce type. Sur place à Champigny-sur-Marne, on retrouve Marion Ferrer. Bonjour Marion.
Bonjour.
Alors vous êtes Marion devant ce commissariat et l'attaque a causé pas mal de dégâts sur le bâtiment notamment.
Oui, des débris de mortiers d'artifice jonchent encore le sol. Preuve de la violence de l'attaque, la porte du sas de sécurité du commissariat où les deux policiers ont eu juste le temps de se réfugier hier soir est fracturée. Une agression d'une dizaine de minutes qui aurait pu être dramatique. Laurent Jeanne est le maire de Champigny-sur-Marne.
40 personnes équipées de barres de fer qui sont clairement venues en découdre avec la police avec l'objectif de casser du flic. Il n'y a pas d'autre expression à avoir. Heureusement, on n'est pas passer loin d'un drame. Ils ont eu le temps de se réfugier au niveau du sas de protection et donc de sauver leur vie. Ils ont été retranchés dans le commissariat et heureusement qu'on a ce sas qui a été conçu parce que sinon on pouvait s'attendre au pire.
Alors les débordements ne sont pas rares dans ce quartier de Bois-l'Abbé. C'est même la deuxième fois que le commissariat est ciblé. Mais pour le maire, hier soir, la violence est encore montée d'un cran.
C'est une attaque en bande organisée, clairement préparée, puisqu'ils sont arrivés de deux côtés. Donc on voit bien que c'était bien organisé. Ouais.
Une attaque sur fond de trafic de drogue et de tensions avec les jeunes du quartier suite à une arrestation il y a quelques jours. Les habitants, eux, ont peur. Ils nous confient qu'il est très compliqué de vivre ici, comme Ahmed, 70 ans, qui a tout vu hier soir depuis sa fenêtre.
Des petits jeunes qui ont jeté le truc là sur le commissariat. J'ai vu brûler la voiture qui était là. C'est la deuxième fois, ça c'est pas normal. Ils se sont dit que c'est à cause de la drogue. Du gros, du gros patin, c'est pas des petits. Ils ont cassé le carreau de la fenêtre là.
Ça
ah, c'est pas tard, c'est comme au 14 juillet.
Les enquêteurs sont toujours sur place devant le commissariat. Pour le moment, vous l'avez dit, aucun suspect n'a été arrêté.
Marion Ferrer avec Romain Luquiens à Champigny-sur-Marne et Gérald Darmanin exprime dans un tweet son soutien total aux policiers. Les petits caïds n'impressionnent personne et ne découragent pas notre travail contre les stupéfiants, ajoute le ministre de l'Intérieur. Une attaque surprise et préparée, nous disait à l'instant le maire de Champigny. Les policiers étaient en train de fumer une cigarette devant le commissariat durant une pause. Ils ont vu une quarantaine de jeunes arrivés de tous les côtés. Selon Eddy Debost, secrétaire régional adjoint du syndicat Alliance Police du Val-de-Marne, les agresseurs n'ont plus peur aujourd'hui d'attaquer les policiers dans leurs locaux. Eddy Debost avec Édouard Marguier.
La haine anti-flic est débordante, c'est inacceptable. Il y a vraiment, on peut le constater tous les jours, une perte de l'autorité de l'État. Les racailles n'ont plus peur de venir à affronter les policiers, même dans certaines des commissariats.
On le rappelle, ce commissariat se trouve en plein cœur de cette cité sensible. Est-ce que c'est un territoire où il est difficile de travailler quand on est policier ?
Difficile, c'est un bien grand mot. On va dire c'est un territoire en effet qui demande une spécificité particulière où on a un turnover de collègues qui est assez régulier. Heureusement, on a des collègues aussi expérimentés au sein du commissariat. sortir d'école, de police et arriver directement à Champigny, vous imaginez bien que ça ne doit pas être facile pour nos jeunes collègues. J'aimerais pas être à leur place, quoi.
Eddy Debost du syndicat policier Alliance. Une semaine après le passage et le chaos provoqué par la tempête Alex, le bilan dans les Alpes-Maritimes s'est alourdi. Il s'élève à 7 morts et 12 personnes dont les disparitions sont jugées inquiétantes. 9 jours après le désastre, il est difficile pour les habitants d'oublier les scènes d'horreur malgré la solidarité qui s'organise. Hier, par exemple, les avocats du barreau de Nice se sont mobilisés pour les sinistrés. Face à la complexité des démarches administratives, une aide d'autant plus précieuse que certains sinistrés sont encore sonnés et sous le choc. C'est le cas de Brigitte et Alex. Le couple a acheté une maison à Saint-Martin-Vésubie il y a 6 ans. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. La maison et le terrain ont disparu, emportés par les crues. Le témoignage de Brigitte et Alex, recueilli par Sonia Gobry de France Bleu Azur.
Je n'arrive pas à réaliser, c'est pas chez moi, j'ai l'impression que j'ai assisté à un spectacle.
Et puis on a l'esprit un peu confus, on est fatigué, donc c'est même plus une fatigue physique, c'est une lassitude, voilà. Mais il y a des choses qui seront pas prises en charge, donc il va falloir se battre pour ça aussi. La maison, elle a été achetée à un prix, elle en vaut un autre après, donc c'est ça qu'il va falloir établir, les photos, essayer de récupérer des factures, parce que tous les papiers sont restés dans la maison. Tout ça, c'est du travail, il va falloir monter un dossier et tout ça. Il faut récupérer quand même quelque chose pour après reconstruire le futur, il n'y a pas le choix.
Invité de ce journal, Gérard Manfredi, maire de Roquebillière, dans la vallée de la Vésubie, ravagée par les inondations. Bonjour Gérard Manfredi.
Bonjour et merci à France Inter de s'occuper de notre vallée de la Vésubie et de porter un regard bienveillant sur nous.
Alors Gérard Manfredi, le témoignage qu'on vient d'entendre de Brigitte et Alex, deux habitants de Saint-Martin-Vésubie, qui est un peu au-dessus de votre village, Roquebillière, ce témoignage illustre malheureusement ce que vous avez vécu dans votre commune à Roquebillière.
Oui, tous les habitants de la Vésubie ont été traumatisés par ce qui nous est arrivé. Ce phénomène était d'une ampleur que nous n'avions jamais connue et je pense qu'il marquera nos mémoires pour très longtemps.
Gérard Manfredi, est-ce qu'aujourd'hui, 9 jours après les inondations et le désastre des crues, est-ce qu'aujourd'hui il y a encore des personnes dont vous êtes sans nouvelles chez vous à Roquebillière ?
Sur Roquebillière, nous avions établi une liste des personnes qui étaient dans la zone dite dangereuse. Donc nous avions un moyen de contrôle très rapide et ça n'est pas le cas. Nous n'avons pas de soucis de personnes disparues.
Vous, pendant 9 jours, vous êtes resté à Roquebillière ?
Ah oui, il y a eu du travail, il a fallu tout gérer, tout superviser. Nous avons eu 2 décès d'amis à nous, ce qui nous a en plus totalement traumatisés, et ce qui a traumatisé tous les Roquebilliérois, et il fallait leur apporter un soutien psychologique à tous.
Et aujourd'hui, comment vous, Gérard Manfredi, le maire de Roquebillière, vous pouvez soutenir et aider vos administrés ?
Eh bien, en étant à leur écoute le plus possible, en leur apportant des réponses dans la mesure où on peut leur apporter des réponses, parce qu'il reste encore beaucoup de points obscurs. Ce qui s'est passé, eh bien, nous a tous marqués, mais l'avenir nous paraît toujours incertain et nous comptons sur l'aide du conseil départemental, de la métropole, de l'État,
oui,
pour arriver à rendre notre avenir moins pénible.
Quand vous parlez de points obscurs, vous voulez parler de l'engagement de l'État, des millions promis pour la reconstruction de la déclaration en zone de catastrophe naturelle. C'est ça les points obscurs qui ne sont pas encore éclaircis selon vous ?
Ils seront long à éclaircir parce que ça demande des études, voir ce qu'il est possible de sauver, ce qu'il est possible de reconstruire, ce qui ne sera pas possible et qu'il faudra indemniser. Donc, il reste encore un long chemin à faire.
De quoi avez-vous besoin, Gérard Manfredi, aujourd'hui, 9 jours après la catastrophe ?
Écoutez, on a déjà eu un intérêt qui a été porté à la Vésubie et à notre village en particulier, qui nous a beaucoup apporté sur le plan psychologique. Mais maintenant, nous avons besoin d'argent, uniquement d'argent. Nous avons reçu des dons en habits, en nourriture, en boissons, en très grand nombre, et à l'heure actuelle, nous sommes même dans l'incapacité de recevoir les nouveaux dons, tellement il y en a eu. Et nous remercions tous les donateurs qui sont venus parfois de très loin en France.
Oui, c'est ça, c'est une solidarité à l'échelle nationale.
Oui, ça a dépassé le cadre même du département.
Alors,
Contre, ce dont nous avons besoin maintenant, c'est bien entendu d'argent pour reconstruire. Nous avons par exemple le monument aux morts qui a été détruit. Bien, je vais essayer de voir une souscription avec des clubs services qui seront peut-être prêts à nous aider pour le reconstruire. L'État nous permettra, je pense, avec la déclaration de catastrophe naturelle, de faire en sorte que les assurances remboursent mes administrés.
Oui.
Et le conseil départemental a débloqué une grande somme d'argent qui nous sera fort utile. Quant à la métropole, elle nous a apporté tous les moyens logistiques possibles, ce qui nous a facilité la vie au cours de ces derniers jours.
Gérard Manfredi, merci. Merci beaucoup d'avoir été l'invité de ce journal. Gérard Manfredi, maire de Roquebilière dans la vallée de la Vésubie, ravagée le week-end dernier par des inondations terribles.
France Inter, le journal de 13h, Frédéric Barrère.
La progression de l'épidémie de coronavirus avec un nouveau record de contamination. Près de 27 000 personnes testées positives ces dernières 24 heures. Autre indicateur inquiétant, le nombre de malades Covid en réanimation augmente légèrement. Depuis hier, 6 métropoles sont désormais classées en zone d'alerte maximale. Aix-Marseille, Paris, Lille, Grenoble, Lyon et Saint-Étienne. Et demain, Toulouse et Montpellier pourraient aussi basculer en alerte maximale. Dans certaines régions, les hôpitaux commencent à être sous tension, manque de personnel dans les hôpitaux en Île-de-France. Le plan blanc a été renforcé et déclenché. Attention, prévient Bertrand Jomier, médecin et sénateur apparenté PS. L'hôpital n'a plus les moyens aujourd'hui de faire face à la seconde vague de l'épidémie. Bertrand Jomier est avec Jules Dequis.
Le mouvement de départ des soignants de l'hôpital, qui était très fort avant la crise, qui s'était interrompu pendant la crise, a repris. Et c'est une des raisons pour lesquelles, notamment, on est incapable d'ouvrir 12 000 lits de réanimation, comme le dit le ministre, parce qu'on n'a pas les personnels. Et on n'a pas les personnels parce qu'ils sont fatigués, qu'une partie d'entre eux sont partis et que les hôpitaux manquent de personnel, manquent de moyens. Et donc, évidemment, ceux qui sont là feront face, on peut compter sur eux. On le sait, mais on va être en difficulté et on ne peut pas avoir, comme au printemps, 7000 patients atteints de Covid en réanimation en France. On n'en a plus les moyens.
Bertrand Jomier sur France Info ce matin. Et puis le personnel soignant se prépare à la grève jeudi prochain, 15 octobre, à l'appel de la CGT. Les mesures salariales ne sont pas suffisantes, selon certains soignants. Je reviens un instant, on en parlait avec le maire de Roquebilière, sur le bilan revu à la baisse, le bilan des inondations et des terribles crues. Et 6 personnes ont été tuées, emportées par les crues, et non pas 7, comme je voulais indiqué précédemment. Le bilan fait état de 7 morts et de 13 personnes dont les disparitions sont jugées inquiétantes. Retour à l'actualité et au Royaume-Uni sur le coronavirus qui déclenche une colère aussi dans le nord de l'Angleterre, une colère contre Boris Johnson. Cette région, le nord de l'Angleterre, est particulièrement touchée par l'épidémie de coronavirus et elle refuse le traitement que pourrait lui imposer demain le Premier ministre britannique. Londres envisage un quasi-reconfinement tellement les taux d'infection sont repartis à la hausse pour les villes du nord de l'Angleterre. Le plan de soutien financier du gouvernement n'est pas suffisant, le compte n'y est pas en cas de fermeture de pubs, de restaurants et de cafés, Otsufi.
Déjà soumise à des mesures plus strictes que le reste du pays, les Anglais du Nord ont l'impression d'être les boucs émissaires de cette pandémie. Demain, le Premier ministre devrait y annoncer la fermeture des restaurants, pubs, cafés, mais sans soutien financier supplémentaire pour ces commerçants ou leurs employés. Inacceptable pour les élus de cette région comme Jamie Driscoll.
Quand l'État dit « vous ne devez pas aller travailler, vous ne devez pas ouvrir votre commerce », les gens devraient obtenir 100% de compensation.
Le mécanisme de soutien à l'emploi annoncé il y a 2 semaines par le ministre des Finances va être élargi aux entreprises qui doivent légalement rester fermées sur ordre du gouvernement. Mais leurs employés ne seront indemnisés qu'aux 2/3 de leur salaire habituel, ce qui est très insuffisant pour Andy Burnham, le maire de Manchester. Il dénonce une politique de 2 poids 2 mesures.
Le chômage partiel au niveau national était fixé à 80% du salaire. Pourquoi le chômage partiel local devrait être à 67%?
Les élus du Nord, y compris un groupe de 30 députés de la majorité, n'exclut pas une action judiciaire pour contester les décisions du gouvernement, mais espère que la pression politique de ce week-end suffira à faire infléchir ces décisions. Londres, Haute-Soufi, France Inter.
Le cessez-le-feu rompu cette nuit dans le Haut-Karabakh, les bombardements arméniens sur la ville de Ganji en Azerbaïdjan ont fait 7 morts. La capitale de la région du Haut-Karabakh, Stepanakert, a été également bombardée. Ce matin, on ne parle plus de cessez-le-feu, mais de trêve humanitaire, et la région semble un peu plus calme dans le Haut-Karabakh. À majorité arménienne, beaucoup accusent le président turc Erdogan d'attiser le conflit, voire de l'encourager en soutenant militairement les forces de l'Azerbaïdjan. Anne Andlauer.
La Turquie avait accueilli avec beaucoup de réserve l'annonce d'un cessez-le-feu dans le Haut-Karabakh. Les autorités d'Ankara, exclues des médiations qui s'étaient tenues à Moscou, avaient présenté la nouvelle comme un geste purement humanitaire de la part de l'Azerbaïdjan pour permettre aux deux camps d'échanger les morts et les prisonniers et pour laisser le temps à l'Arménie de retirer ses forces des régions disputées. Un ultimatum, en somme. Les bombardements des dernières heures, notamment celui de Ganja, la 2e ville d'Azerbaïdjan, risquent de verser de l'eau au moulin de la Turquie, qui pousse depuis le début Bakou à poursuivre les combat pour accomplir ce qu'elle considère comme une reconquête du Haut-Karabakh. Il y a quelques jours, des responsables à Ankara avaient reconnu que des avions de chasse turcs se trouvaient en Azerbaïdjan pour dissuader l'Arménie, niant en avoir fait usage. Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev avait reconnu, pour sa part, que son armée utilisait des drones achetés à la Turquie pour frapper des cibles arméniennes. Si les combats s'intensifient et dégénèrent en guerre ouverte entre Bakou et Erevan, la question d'un soutien direct et affiché de la Turquie pourrait se poser assez vite. Ankara a déjà dit ces derniers jours attendre les instructions de Bakou. Anne Andlauer, Istanbul, RFI pour France Inter.
Tennis, jour de finale d'automne à Roland-Garros avec bien sûr Nadal Djokovic et un palmarès époustouflant pour les deux champions. Nadal va jouer pour un 13e titre à Roland-Garros et Djokovic pour une 18e victoire dans un tournoi du Grand Chelem. Mais avant cela, il y a la finale du double dames en direct de Roland-Garros. On retrouve Jean-Pierre Blimeau. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour Frédéric.
Et il y a une Française, Kristina Mladenovic, en finale du double dames.
Et qui a même gagné il y a quelques instants de cela avec la meilleure amie qu'elle a sur le circuit, Timea Babos, la hongroise. Eh bien, la paire s'est imposée en 2 manches, 6-4, 7-5, face à l'américaine Krawczyk et à la chilienne Guarachi. Et donc, c'est le 5e titre pour Kristina Mladenovic dans un tournoi du Grand Chelem en double féminin. La première fois, c'était avec Caroline Garcia, sa coéquipière de l'équipe de France féminine de Fed Cup. Alors, la finale homme, vous l'avez dit, opposera Novak Djokovic à Rafael Nadal. Finale de rêve, ce sera la 3e finale ici entre les deux hommes à Roland-Garros. Ils se sont déjà rencontrés 8 fois en finale en Grand Chelem. Avantage tout de même à Nadal qui vise, vous l'avez dit, un 13e titre ici à Roland-Garros et Djokovic un 2e.
Merci Jean-Pierre Blimeau. Un escape game toulousain agite les réseaux sociaux depuis hier. Un jeu très diversement apprécié. Dans la salle de jeu Arcane près de la place Saint-Pierre à Toulouse, le président de la République a disparu et dans ce scénario, les joueurs doivent le retrouver à la recherche d'indices et d'énigmes à résoudre. À la fin du jeu, ils ont 3 choix. Libérer le président, le traîner en justice ou le supprimer. Et c'est cette dernière possibilité qui fait polémique. La scénariste de ce jeu se défend. Toute cette histoire, c'est de l'ironie, Benjamin Recouvreur.
Le jeu se déroule dans un squat. Pendant 1 heure, les joueurs doivent chercher les indices qui leur permettront de retrouver le président. Partout, on trouve des références à des polémiques liées au quinquennat Macron et ce, dès l'entrée.
Derrière toi, il y a tagué « Bienvenue chez ceux qui ne sont rien ».
Camille est la gérante et scénariste. Il y a plusieurs salles. Dans l'une d'elles, par exemple, on trouve le coffre d'Alexandre Benalla. Puis un peu plus loin, la salle finale avec la fameuse mascotte du président.
Il est assis, il est un petit peu abîmé, il y a du sang. Alors c'est une allégorie autour des violences policières, œil pour œil, dent pour dent.
3 possibilités donc, le libérer, le traduire en justice ou le tuer. Pour Camille, ancienne gilet jaune, ce n'est pas une incitation à la haine.
Je ne pense pas que le message soit clairement kidnapper Manu et faites n'importe quoi avec le président. C'est aussi beaucoup d'ironie. Je fais de l'ironie avec des choses qui sont factuelles quoi, et des choses qui me semblent parfois, moi, aberrantes.
Un scénario scénario politique que les joueurs découvrent parfois. Alexis est venu jouer avec ses amis. Il n'était pas au courant de la décision finale et pour lui, rien de grave.
C'est marrant d'avoir le choix. C'est marrant de faire un escape game, on n'est pas là pour aller purger nos envies noires.
Mais pour certains, ça ne passe pas. Camille a reçu des menaces. Certains joueurs aussi ont pu être choqués. Elle envisage donc de modifier le scénario. Plus question de tuer, mais de destituer le président.
Benjamin, recouvreur de France Bleu Occitanie, le temps pour les heures qui viennent et pour demain.
La météo avec Bureau Vallée, spécialiste depuis 30 ans en papeterie, fourniture et mobilier de bureau.
Jean-Michel Golinski.
La France se situe dans un couloir de vent orienté au secteur nord. Conséquence, les prochaines journées seront fraîches, de l'ordre de 10 à 13 degrés au maximum en général, et même le retour de gelée blanche en cours de nuit, avec tout de même quelques degrés supplémentaires pour le bassin méditerranéen, où aujourd'hui et encore demain, le Mistral et la Tramontane seront très turbulents, vers 110 km à l'heure en rafale. Aujourd'hui, des orages sont possibles sur les Alpes-Maritimes et sur le Var, mais le soleil va largement s'imposer du golfe du Lion à la vallée du Rhône. Sur le reste du pays, c'est un régime d'averse qui va rythmer la journée, avec de la neige sur l'ensemble des massifs à partir de 1300 mètres et de fortes quantités de neige à prévoir sur la chaîne des Pyrénées. Demain, vent et soleil seront au programme autour de la Méditerranée. Des pluies vont faire leur entrée par les régions du quart nord-ouest en matinée. Elles vont très lentement progresser vers l'intérieur et puis partout ailleurs, ciel plutôt variable avec par moments une ondée passagère.
Jean-Michel Golinski de Météo France.